c'est l'heure des bonnes nouvelles sur Radio Alto.
Dernier souffle, un texte de François Pillon, lu par David.
Dernier souffle. Roulez vite, oui, mais pas trop. Ce n'est pas le moment d'avoir un accident. De toute façon, ce n'est jamais le moment d'en avoir un. Le médecin m'a averti que ma mère pouvait s'éteindre dans quelques minutes ou dans quelques heures, ça ne sert à rien de conduire comme un dingue. Pas utile non plus de s'énerver derrière ces touristes qui n'avancent pas et ralentissent même à chaque fois qu'un panneau indique une fromagerie. Le monde est ainsi fait. Pendant qu'ils cherchent le meilleur produit pour émoustiller leurs papilles, je cours en espérant dire au revoir à ma mère avant son dernier souffle. Jarzy. La voiture de médecin est encore devant la maison de ma mère. Plus besoin de courir à l'étage depuis qu'on lui a installé un petit studio en bas après sa dernière chute dans l'escalier. Le docteur me fait un petit signe de tête. Je suis arrivé à temps. Je prends la main de ma maman dans la mienne. Elle me semble si fragile. J'ai peur de lui casser les os. Elle ouvre les paupières et esquisse un petit sourire. Elle semble apaisée. Moi aussi. Je ressens une sorte de bonheur à lui montrer que je suis à ses côtés pour franchir l'ultime seuil. Une légère pression sur mes doigts. Ses lèvres bougent. On dirait qu'elle veut me dire quelque chose. Je m'approche et il me semble entendre « ti ». Ses yeux paraissent fixer le fond de la pièce. Je me retourne et aperçois cette tirelire poterie si moche en forme de tigre que j'ai toujours vu trôner sur le buffet sans comprendre ce que cet objet aux couleurs criardes pouvait bien susciter comme intérêt. Si ça ne tenait qu'à moi, il y a bien longtemps que ce félin aurait fait un petit aller simple à la déchetterie. « Maman, tu veux que je t'apporte le tigre ?» Petit clignement de paupières en guise de réponse. « Je vais chercher l'objet. » Elle essaye encore de me dire autre chose. Il me semble comprendre « casse » en même temps que la pression dans les doigts s'est évaporée. J'ai désormais, dans la main droite, la main devenue définitivement molle de ma maman et dans l'autre cette poterie hideuse. Impossible de lâcher l'une ou l'autre. Une semaine après l'enterrement, ma femme me demande ce que je compte faire de ce truc moche. « Tu aurais dû la glisser dans le cercueil, cette horreur, si elle était si importante pour ta mère. Maintenant, si pour toi c'est un souvenir, tu peux la mettre dans le placard, mais on ne va pas l'exposer sur un meuble. » Ce qui m'a retenu de faire disparaître ce tigre sous terre, c'est la sensation d'avoir entendu « casse ». Et en même temps, j'hésite à détruire ce qui peut être considéré aujourd'hui comme un objet mémorial. Quand on le secoue, on entend comme un bruit métallique, mais j'ai du mal à envisager sa destruction. Pourtant, la curiosité me dévore. Au bout de 3 semaines, je me suis décidé. J'ai ouvert les entrailles de la bête et j'en ai extrait quelques surprises. Un ticket de rationnement de la dernière guerre mondiale, la photo d'un jeune homme que je ne connais pas, ce cliché est découpé. Il y a aussi une balle de fusil et un billet de 100 francs. J'ai tout à coup l'impression d'être au cœur d'un polar. Il me faut savoir qui est sur ce cliché et quel est le message délivré par la balle. Je retourne à Jarzy avec la ferme intention de rester jusqu'à l'éclaircissement du mystère. Pendant que je recense les conscrits de ma mère encore vivant, je vais voir celui qu'on surnomme le sniper, un copain qui fabrique lui-même ses munitions pour la chasse afin qu'il fasse parler la balle. Il la reconnaît aussitôt. « Calibre 8, fusil Lebel. Si je me souviens bien, ton grand-père en avait encore un, mais c'est tout ce que je peux te dire. » Puis je file chez Roger, le meilleur ami de ma mère. « Ah, elle me manque, la Louise. C'était vraiment une femme bien, ta mère. Maintenant, le prochain sur la liste, c'est moi. » « Mais non, dis pas de bêtises, tu pètes encore le feu. » Puis je lui montre les objets que j'ai trouvés. Et il me raconte la rivalité entre mon grand-père Émile, surnommé le Sicilien, parce qu'il était très brun et que c'était un sanguin et fallait pas le chercher, et puis jaloux comme un pou, fallait pas trop regarder son Ernestine de près. Et celui qu'on appelait le Légionnaire, un châtain clair aux yeux clairs aussi. « Mais va voir Théo à la compote, Son père était le meilleur ami du légionnaire. Tiens, si tu veux faire parler Théo, prends donc cette bouteille de gnôle. Avec lui, ça marche à tous les coups, mais attention, le mal de tête après. Je me prépare donc à une soirée chez Théo. Comme dit l'expression, le lendemain matin, il y avait vraiment du brouillard sur la commode, mais j'avais au moins pu glaner des informations sur Lucien, dit le légionnaire, celui qui était en photo dans le Tigre. En fait, Émile et Lucien étaient conscrits, nés en 1915. C'étaient de grands amis, gamins, ils étaient inséparables, jusqu'au jour où ils sont tombés amoureux de la même femme, ma grand-mère Ernestine. C'était juste avant la Seconde Guerre mondiale. Lucien était plus beau, mais Émile plus travailleur. Mon arrière-grand-père avait choisi Émile. Mais Lucien ne voulait pas lâcher l'affaire, et je crois que ma grand-mère en pinçait pour lui. Alors qu'il était toute la journée en montagne avec les bêtes au haut du four, il n'hésitait pas, la nuit venue, à marcher jusqu'au col des Chérelles pour voir ma grand-mère. Il fallait être fichtrement discret car mon arrière-grand-père dormait avec le fusil chargé à la chevrotine. Et de plus, Émile, quand il eut vent de ses escapades nocturnes, traquait lui aussi Lucien la nuit avec le fusil. En passant par Nanfourchu, le plan de la limace et sur les plans, il marchait presque 4 heures, sans lampe bien sûr, pour ne pas être repéré et autant dans l'autre sens. Parfois, il remontait à Orgeval et passait par les Farnais pour brouiller les pistes. Il devait être sacrément amoureux. Ma mère Louise est née 8 mois après le mariage d'Ernestine et Émile en 1940. Au retour de la guerre, ma mère a confié à Roger que Lucien lui passait des tickets de rationnement en douce à l'insu de mon grand-père. « Si Émile s'en aperçoit, tu lui diras que c'est pour la gamine. Moi, je n'ai pas d'enfant à nourrir », aurait-il précisé à Ernestine. Puis, sans doute, par dépit amoureux, Lucien s'est engagé pour l'Indo, comme on disait. Et c'est à partir de ce moment qu'on lui a attribué son surnom. À son retour, mes deux oncles étaient nés aussi, mais Lucien n'arrivait pas à se faire une raison et il est revenu tenter sa chance auprès d'Ernestine. C'est là qu'Émile a pété un plomb, au sens propre du terme, puisqu'il a tiré une balle de 8 mm dans le volet de Lucien en guise d'avertissement. Le légionnaire a crânement rapporté la balle à l'envoyeur, et elle a atterri, elle aussi, dans le Tigre. Mon grand-père s'est un peu calmé, et il est allé voir son ami d'enfance pour lui suggérer de se marier avec Jeanne, la mère de Roger. Il lui propose même de lui donner 100 francs, une somme à l'époque, pour participer aux frais de la noce. Encore une fois, le billet est rapporté à son propriétaire et ingéré par le félin. Émile ne savait pas que cette poterie moche était un véritable repère de souvenirs pour sa femme. Ces histoires, mon père adorait me les raconter, souligne Théo. Faut dire qu'il n'y avait pas la télé à l'époque. Alors, la rivalité entre le Sicilien et le légionnaire alimentait tous les cancans. Ça remplaçait largement les feuilletons. Les éléments du sanctuaire ont donc parlé. J'en sais un peu plus sur mes grands-parents. Ce que voulait sans doute me raconter ma maman dans le dernier instant partagé ensemble. Elle souhaitait certainement que je devienne le dépositaire de la mémoire familiale. En descendant vers le cimetière, je m'aperçois que, gamin, ces histoires d'adultes ne nous concernaient pas vraiment. On ne pensait qu'à gambader. Je veux me recueillir un instant sur le caveau de la famille. Et, comme pour prolonger mes pensées, je passe par l'autre allée, itinéraire que je n'emprunte jamais. Juste derrière notre caveau, une tombe modeste avec seulement une petite plaque d'anciens combattants. Sur le haut de la pierre tombale, un petit portrait en noir et blanc d'un jeune homme châtain, Lucien Dumont, 1915-1988. Je ne peux m'empêcher d'ouvrir mon portefeuille et de regarder mon permis. J'avais 19 ans sur le cliché. Ce sacré légionnaire a réussi à se caler non loin d'Ernestine, sans doute pour lui effleurer éternellement la main. La grille du cimetière grince, une personne vient d'entrer, j'ai le sentiment d'un gamin qu'on prend en flagrant délit, comme si je n'étais pas à ma place. Je sens une larme rouler sur ma joue, tout en murmurant « Ciao papy ».
Cette nouvelle a été écrite dans le cadre du concours d'écriture Les Bonnes Nouvelles des Bauges. Les recueils sont disponibles à la vente au studio de Radio Alto.